quoi choisir pour vous apporter, pour vous partager dans la parole de Dieu? C'est toujours un défi. Et ce matin, j'ai simplement choisi de vous partager quelques-unes des réflexions que le Seigneur m'a emmenées dans les derniers mois, personnellement dans ma vie. Ce chant est très cher à mon épouse et à moi, d'entendre de telles paroles et d'être capable de discerner Dieu quand la route devient vraiment sombre, très étroite, et qu'on reste pris, puis qu'on a la difficulté à avancer. Être capable de discerner Dieu, c'est un défi. Et j'aimerais vous emmener dans un texte dans Nombre. Et je me suis mis à réfléchir sur les personnages bibliques et littéralement, ce message-là, je pourrais faire le même message puis prendre 15-20 personnages bibliques puis ça aurait tout fait la même chose. Il y a tellement de personnages bibliques qui ont vécu toutes sortes de choses difficiles. Et mon point, j'aimerais les regarder ensemble ce matin. Et surtout, regarder qu'est-ce qui en est advenu de ces frères, de ces sœurs-là. Et ce matin, quelques pensées, premièrement dans Nombre. On va les voir aussi un petit peu ailleurs, mais dans Nombre au chapitre 16. On va lire les versets 1 à 5 et 12 à 15. Donc, Nombre 16. Corée, fils de Jetséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Datan et Abiram, fils d'Éliab, et avec On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » Verset 12. Moïse envoya appeler Datan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, « Nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. » Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Seigneur, je veux simplement implorer que tu puisses rendre ces quelques versets de ta parole et les autres qu'on va regarder vivants à nos yeux. Tu as enregistré ces paroles pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner. Et ce matin, on veut te prier que tu nous rendes attentifs à cet enseignement de ta parole, ce que tu veux nous dire. Car on te le prie au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Ce que je veux retenir de ça, je ne veux pas faire une étude complète du passage, mais ce que je suis en train de retenir, de voir, c'est qu'on a deux leaders ici. Deux hommes importants qui s'appellent Moïse et Aaron, qui dirigeaient un peuple qu'on estime à quoi? À peu près 2 millions de personnes. Je suis le directeur à Parole de vie, puis on a une équipe d'une trentaine de staff. 2 millions. Je tremble juste à réfléchir à celle-là. Mais on a deux leaders importants, comprenez? Deux hommes que Dieu a mis en place pour diriger son peuple hors d'Égypte. Et là, on a deux groupes de personnes qui se liguent ensemble, qui se lient ensemble contre ces deux leaders-là. Il y a Corée et sa troupe qui était surtout composée de Lévites. Les Lévites, il y avait le sacerdoce, il y avait toute la question du service de l'Éternel. Des gens, bref, quoi, importants. On a aussi Datan, Abiram et On, qui étaient des fils de Ruben. Ruben, vous savez c'est qui? Le premier-né de la tribu, des fils, des premiers-nés de Jacob. Bref, on a un groupe de personnes qui est important, qui s'en viennent vers Moïse et Aaron. Et là, au verset 2, qu'est-ce qui s'est écrit? Il y a un petit mot, là, que nous autres, on a probablement passé vite, mais c'est écrit, « Ils se soulevèrent. » Ils se soulevèrent contre Moïse est avec 250 hommes des enfants d'Israël. On est-tu 200 ici ce matin? Probablement pas. À peu près? 300 ici ce matin? 325, donc. Ça vous donne une idée du nombre de personnes qui sont arrivées contre qui? Moïse et Aaron. C'est assez inégal. Il y a un soulèvement contre l'autorité de ces hommes-là. Il y a une assemblée qui se révolte. Puis qu'est-ce qu'ils disent? C'en est assez. On n'est plus capable. Puis je ne suis pas sûr que ça a été dit. Bien, c'est assez, Moïse. Là. On peut-tu changer un peu? Un soulèvement, une troupe qui arrive, ce n'est pas nécessairement les gens les plus polis. Ça devait être dur. Et là, on a Moïse, Aaron qui sont là. Qu'est-ce qu'on voit au verset 4? Ils ont entendu ça, ils se sont jetés sur leur visage. Pas évident. Ils vont même, au verset 3, mentir. C'en est assez. Ils disent, « Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel? » Vous savez, c'est pas vrai, ça. Moïse et Aaron se sont jamais élevés au-dessus de l'Assemblée. C'est Dieu qui l'a fait. Puis, si on va voir dans l'Exode, vous allez voir que Moïse y a résisté, puis vous connaissez l'histoire beaucoup à cet appel-là. Il ne voulait pas de ce job-là, si vous voulez, mais c'est Dieu qui l'appelait. Donc là, on a un groupe de personnes qui se soulèvent, qui s'en vont vers Moïse, vers Aaron. Et là, Moïse, il va faire quoi? Moïse va s'en remettre à son Dieu. Première chose qu'il fait, c'est qu'il se jette son visage contre terre. Au verset 15, Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, il parle à Dieu. Quelle épreuve! Est-ce que vous êtes d'accord? Quelle épreuve! On a deux hommes, qu'est-ce qu'ils font? Moïse n'a jamais demandé de faire ça. Il a refusé, en fait. Il veut sortir, il veut diriger le peuple de Dieu d'après la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive? Tout va bien? Tout se passe comme prévu? Non. Il y a eu de l'opposition à la tonne de par Pharaon. Là, ils sont sortis. L'opposition vient de où? De l'interne. Et là, Moïse et Aaron, ils vivent ça. J'essayais de me mettre dans les souliers de Moïse et d'Aaron. Oh non, pas vrai. Ça a tout pris pour sortir d'Égypte. On a sorti à bras et entendu. Dieu a fait des miracles incroyables. Puis là, eux autres, ils sont contre nous autres. Et tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel. Oui, puis tu as oublié les fouettes aussi. Puis le travail. Il dit, ouais, puis là, vous remarquez un petit mot. Le peuple, il dit, penses-tu crever les yeux de ces gens? Deux chapitres avant, Nombre 13, c'est les 10 espions qui sont montés en Israël, voir le pays. Là, il y a Caleb et Josué qui sont revenus avec un bon rapport, mais les 10 autres, non. Puis ils ont tous décrit la force du pays. Mais c'est sûr, c'est un pays où coule le lait et le miel. Tout est là devant eux. Les gens le voulaient, ce pays-là aussi. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Ça ne marchera pas, là. Il y a un soulèvement. Bref, le point que je veux faire avec vous ce matin, en commençant, là, c'est qu'on a deux leaders, deux personnes qui veulent marcher pour Dieu. Amen? Puis qu'est-ce qui se passe? Les tracas, les soucis, les tempêtes arrivent de l'extérieur comme de l'intérieur. Et là, Dieu va miraculeusement libérer Moïse et Aaron, montrer encore une fois que c'est lui qui voulait se tourner au verset 28, juste un peu plus loin. Là, le Moïse leur parle, il dit, « Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses que je n'agis pas de moi-même. » Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse ». Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Dieu a libéré, a mis son sceau d'approbation sur Moïse et Aaron. C'est fini là? Malheureusement, non. J'hallucinais quand je relisais ces passages-là, je pense. Juste un petit peu plus loin, verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » C'est raide. Là, ils se font accuser d'avoir tué le monde. Vous êtes des meurtriers. À quelque part, quand quelqu'un sert Dieu, ça va aller mal par moment. Joël puis moi, on en parlait durant la pause. C'est normal. On est en train de parler, de faire des choses pour l'Éternel. On veut vivre pour lui. On est au front. Puis au front, il y a des balles qui passent. Puis des fois, il y en a une qui nous touche. On veut s'en aller au front en habit et en cravate. C'est pas normal. Mais à quelque part, nous autres, on s'imagine ça. Puis en passant, j'accuse pas personne. Je fais vraiment partie de la gang qui, oh non, il y avoir un... Pourquoi? L'exemple de ces deux hommes-là, là, le point, c'est que Moïse et Aaron ont vécu des choses extraordinairement difficiles. Mais ils ont continué d'espérer en l'Éternel, leur Dieu. Si vous allez lire la restante de l'histoire à la fin de Deutéronome, Moïse, il ne pourra même pas goûter à la terre promise. Juste avant de rentrer, Dieu dit « Tu vas mourir » à cause de son manque de foi, son erreur, son péché. Mais Moïse, il donne quand même ses instructions à son peuple. « Suivez l'Éternel. Faites ceci. Suivez Josué. » Est-ce que ça le fait en sorte que Moïse a débarqué Dieu puis l'a tiré loin? Pas du tout. Malgré toutes ces choses-là, ces hommes-là sont restés fidèles à l'Éternel. Tournez dans un autre passage. 1 Samuel, très pas loin, là. On va juste aller un petit peu plus loin. 1 Samuel, Josué juge Ruth, 1 et 2 Samuel, chapitre 2. Verset 22. Vous connaissez l'histoire de Élie et de Samuel? Hey, Élie, pas n'importe qui, là. Le grand Élie. Regardez au verset 22. Élie était fort avancé en âge. Et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire, ce n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre, Dieu le jugera, mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continua à grandir, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Juste plus loin, au verset 10 du chapitre 3, pardon. C'est la fameuse histoire quand Dieu va parler à Samuel. Verset 10, l'Éternel vint et se présenta et l'appela comme les autres fois Samuel. Samuel, et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui déclarai que je veux punir sa maison en perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. » Samuel resta couché, probablement sans bouger, jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils, il répondit, me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Élie. Qu'est-ce qu'il a vu? Ses propres fils pécher contre l'Éternel, faire pécher le peuple de l'Éternel. C'est dur. Vrai? Très dur. Il voit ses propres enfants marcher tout croche. J'aime une parole de Élie à la fin. Élie dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Élie est fâché contre Dieu? Ah, ben c'est ça, Dieu. C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Élie va rester fidèle à l'Éternel. Juste un peu plus loin, on n'a pas le temps d'aller lire, Samuel va vivre la même affaire. Les fils de Samuel vont marcher tout croche. Ça va emmener le peuple à demander un roi. Puis on va avoir le roi Saül. Puis si je veux lire juste un verset, chapitre 8, verset 6. À cause du péché des fils de Samuel, à cette heure, un autre homme qui a marché pour Dieu, mais ses fils non. Samuel, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Qu'est-ce que Samuel a fait quand il a vu les péchés de ses fils, quand il a vu le peuple se détourner de l'Éternel? Il a tout lancé Dieu de par-dessus bord? Non. Samuel a invoqué l'Éternel. Verset 10, on pourrait voir, il a continué de rapporter les paroles de l'Éternel. Moi, l'encouragement que je retire pour moi, c'est que malgré la route qui est devenue très difficile pour ces hommes, ces femmes-là, ils ont continué de marcher pour Dieu. Et le temps me manque. Tantôt, je vous ai parlé du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, je ne suis pas capable. C'est une quarantaine d'années, je crois, à prophétiser des malheurs. OK, là? Je ne vais pas être pasteur pendant 40 ans, mais on vous pourrait dire qu'elle va être détruite, l'Église, ici. Je vais être un gars très populaire. Je vais me faire mettre en prison, laissé pour presque mort. Il y a des gens qui vont avoir pitié, qui vont le sortir, Jérémie, de la prison. Il va voir toutes ses prophéties arriver. Youpi! La ville brûlée. Les Babyloniens arrivés à emmener le peuple. Il va voir toute cette misère, puis ça va donner lieu au livre de Lamentations de Jérémie. Jérémie a fait quoi? Il a délaissé son Dieu après? Non, il est resté fidèle à son Dieu malgré toute la misère qu'il a pu voir endurer. En plus, ce n'est même pas de sa faute. Lui était fidèle. Et Élie, l'autre Élie au temps du roi Achab, lui aussi il a mangé de la misère. Paul, allez lire les soucis de l'apôtre Paul. Toutes les fois qu'il était battu, incroyable. Êtes-vous déjà imaginé à quoi ressemblait le dos de l'apôtre Paul? Puis à la fin de sa vie, il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La couronne du juste m'est réservée ou quelque chose comme ça, je le cite mal. Paul, malgré tout, puis là, il dit tous les soucis que moi-même me donnent les églises, toutes les fois que j'ai été en péril, à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat. Il est resté fidèle. Ce que Camille vous a dit tout à l'heure, même si Dieu ne m'aurait pas guéri, il aurait été correct. Job a dit une parole qui m'a bouleversé dans Job 13. Voici, quand même Dieu me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Je pense aux trois amis de Daniel devant la fournaise. Il dit, Dieu va nous libérer. Mais s'il ne le fait pas, sache qu'on ne va pas adorer ta statue. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? C'est que peu importe, l'enseignement que je retiens là-dedans, c'est peu importe ce qui m'arrive, est-ce que je vais rester fidèle à l'Éternel? C'est une vieille image, mais je n'ai jamais oublié avoir lu des textes après les fameux événements du 11 septembre. Une femme disait, je pense que c'était une des femmes des pilotes, mais elle disait qu'elle était en train de virer folle après. Mais après ça, elle a dit, écoute, Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Est-ce que le fondement de ma vie a changé? Est-ce que Christ est encore mort pour mes fautes? Est-ce que ça a changé, ça? Pas du tout. Même si Dieu me tue, je ne cesserai d'espérer en lui, a dit Job. Je vais vous lire un verset que vous connaissez tous bien, dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Les étudiants, ils devraient le connaître par cœur aussi, ils l'ont appris cette année. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien. Mettez-vous dans les souliers à Moïse. Mettez-vous dans les souliers à Samuel, à Élie, à Paul. Ne vous inquiétez de rien. Ben oui, c'est sûr. Facile, ça, hein? Ne vous inquiétez de rien. C'est humainement impossible. Ça se peut pas. Mais Dieu nous dit ne nous inquiétez de rien. Quoi d'autre? Mais en toute chose, vous savez, il n'y a rien qu'on ne peut pas dire à Dieu. Il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pourquoi? Il sait déjà tout. Je suis sûr que vos pasteurs vous ont déjà enseigné ici que Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Pourquoi je prierai à Dieu? Parce qu'il le demande. Je le sais que mes enfants ont besoin de certaines affaires, mais des fois, j'aime ça attendre qu'ils me le demandent. Qui voit le besoin. Faites pas ça. Vous n'avez jamais fait ça, parents? Il le sait, il nous le dit. Est-ce que c'est dur de le dire à Dieu? Je pense à l'histoire de Naaman, le Syrien, qui est allé voir le prophète. C'est quoi déjà son nom? Élisée, oui, j'avais oublié. Puis là, il est tout fâché parce qu'il sort même pas, puis il dit, va te tremper dans l'eau boueuse du Jourdain. Puis je l'ai vu le Jourdain, je suis allé, c'est vrai que c'est boueux. Puis là, le gars est tout fâché. Puis là, il y a quelqu'un qui a une bonne idée. Il dit, gars, c'est-tu dur à faire? Non, mais vas-y, fais-le. Si tu aurais demandé de faire des incantations, de promener à quatre pattes, tu l'aurais fait. Mais vas-y. Ah ouais, c'est une bonne idée. Il l'a fait, il était guéri. Mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Le dire à Dieu. Des supplications, pas trop de trouble à ça. Implorer Dieu. Le supplier. Avec des actions de grâce. Ça, c'est plus dur. Je pense à Jacques. Mes frères, voyez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça, c'est beau quand ça va bien. Mais quand ça ne va pas bien, il est dur à lire ce verset-là. Très difficile à lire. Avec des actions de grâce. Seigneur, je te remercie pour l'épreuve que je suis en train de passer actuellement parce que je sais que je vais être pas mal plus fort, mais je sais passer au travers. Peut-être que cette épreuve-là, là, c'est les grâces de Dieu déguisées. Ça se pourrait-tu? Oui, ça se pourrait. À la fin, frères et sœurs, c'est une question de foi. Posez une question bien simple. On est sauvé comment? Par la foi en Christ. Vrai? Pour mettre notre confiance dans le sacrifice de Christ pour le pardon de mes fautes. Qu'est-ce qui me dit que ça va aller bien dans ma vie chrétienne? C'est par ma foi en Christ. C'est quoi la différence? On est game de mettre notre salut éternel dans les mains de Dieu par la foi. Pourquoi on n'est pas capable de faire la même chose dans la vie de tous les jours quand ça va mal? À quelque part, c'est la même chose. Est-ce que je suis prêt personnellement à mettre ma foi en Dieu pour la vie de tous les jours. Je l'ai mis pour mon salut éternel. Ben, quelque part, c'est bien pire, bien plus important, c'est-à-dire que ma petite vie terrestre. À quelque part, c'est une question de foi. Je vais vivre ma vie par la foi. Pas juste, je suis sauvé par la foi, oui, oui, oui. Mais tu veux vivre par la vue. Et en passant, je ne suis pas en train de pointer personne. Je vous le dis, je me prêche ça. Là. J'ai besoin d'entendre ça. J'ai besoin, je vis toutes sortes de choses. J'ai vécu toutes sortes de défis dernièrement. Ça fait du bien de me parler, de laisser Dieu me parler. Il y a plein d'hommes et de femmes de Dieu, Hébreux 11 nous le dit, qui n'ont pas vu les bénédictions de Dieu du temps de leur vécu. Ils ne l'ont pas vu. Ils sont morts sans avoir obtenu les promesses. Si ça nous arrivait à nous autres, quel domaine de votre vie vous traversez qui peut avoir des difficultés? Deuil peut-être? Maladie? Famille? Famille élargie? Enfant? Travail? On pourrait les nommer bien d'autres. Si ça va mal puis ça continue de mal aller, est-ce que ma foi va changer? Moi, je veux que ma foi demeure la même. Puis que même si Dieu décide de me tuer, je veux continuer d'espérer en lui. Amen. Seigneur, on veut juste te remercier pour ces nombreux exemples de ta parole. Des hommes, des femmes qui ont marcher pour toi, peu importe ce qui s'est passé. Puis même quand ça allait mal, ils ont continué de te rester fidèle. Ils ont continué de te faire confiance, même s'ils n'étaient pas capables de le voir. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à le faire. Merci pour tous les exemples de ta parole. À peu près pas d'hommes et de femmes qui sont dans ta parole, qui n'ont pas vécu ces moments-là. Aide-moi à faire pareil, à passer au travers en te restant accroché fermement, attaché à toi. Les deux bras sur tes jambes, puis ne te laissant pas partir. Peu importe ce qui se passe. Merci de ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.